La Mishnah du jour est la sixième Mishnah du sixième Pérek de Yoma. Nous avions vu dans la Mishnah précédente que l'on accompagnait jusqu'à une distance de 2000 du Tzouk, du rocher, la personne qui conduisait le bouc émissaire. Notre Mishnah demande, « Mehaya Rosé, que faisait la personne qui accompagnait ce bouc émissaire une fois qu'elle était arrivée à destination ?»« Cholek Lashon Shel Zehorit » Nous avions vu antérieurement que l'on nouait une langue de pourpre, d'écarlate, entre les cornes du bouc. Notre Mishnah nous dit que la personne devait couper cette langue en deux, « Chetzio kashar basela » en accrocher une moitié au rocher, « Vechetzio kashar benchte kernav » et en accrocher la deuxième moitié aux cornes du bélier. Et à ce moment-là, « Udchafo la chorav » il poussait le bouc en arrière, donc il le projetait du haut du rocher. La question que se pose le Barthénora est de savoir pourquoi on n'accroche pas la totalité de la langue au rocher ou pourquoi on ne laisse pas la langue accrochée entre les cornes du bélier, pourquoi faire la moitié d'un côté et l'autre moitié de l'autre. Il explique que si jamais on avait accroché la totalité de la langue au rocher, il était possible que la langue devienne blanche en signe de pardon des fautes du Ham Israël avant qu'on ait projeté le bouc émissaire. Et il y avait un risque qu'à ce moment-là, la personne qui conduisait le bouc émissaire se dise qu'il n'y avait plus besoin d'accomplir la mitzvah de le projeter. De la même manière, si jamais on avait accroché la totalité de la langue, on l'avait laissée entre les cornes, il était possible que l'animal tombe de telle sorte que l'on ne puisse plus voir la langue et qu'on ne sache pas si jamais les fautes d'Israël avaient été expiées ou pas. C'est pour cette raison qu'une moitié est restée accrochée et l'autre moitié était accrochée, donc une moitié est restée accrochée à l'animal et l'autre moitié était accrochée au rocher. La Mishnah nous dit « Vehu mitgalgel veyored » que le bouc qui était projeté en arrière, donc tombé en roulant, « Velohaya magia alachati ahar » et avant même d'arriver à la moitié de la hauteur de cette falaise, « Ad shenaasa evarim evarim » son corps était déjà démembré, donc en différents morceaux. « Bav yashavlo tachat suka acharona ad shetershar » une fois qu'il avait fini son travail, donc la personne qui avait accompagné le bouc émissaire et qui l'avait projeté, retournait à la dernière souka, qui se trouvait donc à une distance de 2000 du rocher, à Tchetershar, et restait là-bas jusqu'à la nuit, jusqu'à la fin de la journée de Kippour. Normalement, il n'aurait pas dû avoir le droit de le faire, puisque 2000, c'est plus que le Troum de Shabbat, qui est uniquement de 1000, mais on lui a permis de faire cette chose, car on considère qu'il est dangereux de rester pour lui dans le désert jusqu'à la fin de Kippour. La Mishnah demande ensuite, « Ume matay metame begadim » à partir de quand rend-il ses vêtements impurs ? En effet, il est écrit dans la paracha, « Vehamshaleach et asayir la azazel, ichabez begadav » que la personne qui aura envoyé le bouc émissaire dans le désert devra laver ses vêtements, c'est-à-dire qu'il est devenu impur. À partir de quand devient-il impur ? D'après le Tanakama, dès le moment où il sort de Jérusalem, où il franchit la limite constituée par la muraille de Jérusalem, il est impur. Rabbi Shimon Omer, d'après Rabbi Shimon, Misha'a Dechiato Latsuk, c'est uniquement à partir du moment où il a poussé, où il a projeté le bouc émissaire à partir du rocher. C'est-à-dire que les deux Tanaïm interprètent le mot Hamshaleach de manière différente. D'après le premier, d'après le Tanakama, Hamshaleach, c'est celui qui va emporter le bouc émissaire, et donc dès lors qu'il sort de Jérusalem, il est déjà dans cette dimension et il devient impur. D'après Rabbi Shimon, c'est le fait de projeter le bouc émissaire qui entraîne l'impureté, et la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon.